Oui.
Mais merci beaucoup d'abord, tout d'abord pour l'invitation de Julien Allard et Vincent Lefebvre à venir m'exprimer. Vincent Lefebvre que j'ai rencontré sur Liban, l'université, lors d'un cours d'un certain Jacques Comeille, comme quoi la boucle est bouclée. Et donc, forcément, me voici maintenant comme ancien étudiant à parler à l'ancien, après l'ancien professeur. Donc, je suis un peu forcé par une certaine humilité. Humilité qui est, vient notamment des casquettes dans les, qu'on me demande de porter aujourd'hui, celle du philosophe. Alors autant quand j'ai mon diplôme de juriste, je me suis dit ça y est, je suis juriste. Quand j'ai reçu mon diplôme de philosophe, je me suis dit maintenant il est temps de devenir philosophe. Et donc je crois que je n'y suis pas encore et c'est un processus qui sont moins pour longtemps. L'autre casquette c'est celle de juriste. Et alors là il faut quand même que je sois honnête par rapport à certaines positions, certaines choses que je vais dire maintenant devant vous. C'est que je ne suis pas juste un juriste, je suis aussi un juge au tribunal de première instance de Bruxelles. Et donc le juge surpuissant ce soir, c'est moi. Mais forcément, ça risque de teinter un petit peu certaines des remarques que je vais faire. Mais comme ça, je voulais au moins vous en informer par honnêteté. Alors je vais essayer de évidemment, je ne pourrais pas être aussi structuré que Jacques Comeille. Je réagis un petit peu, j'ai pris quelques notes hier soir. Et donc je vais essayer de livrer quelques réflexions là-dessus. On essaie de nous raccrocher à ce qui vient d'être dit maintenant. Dans la mesure du possible. Tout d'abord, par rapport à ces indices de judiciarisation du politique, enfin, je crois que bon, il y a des éléments qui ont déjà été cités, je ne vais pas revenir dessus. Il y a des choses qui sont, à mon avis, assez évidentes. Je pense notamment par rapport au pouvoir des cours européennes, de la Compagnie des droits de l'homme et de la Cour de justice de l'Union européenne. Leur impact sur les systèmes juridiques nationaux est évident. Donc là, on ne peut pas vraiment faire abstraction. Parfois dans des mesures un peu chaotiques, je pense évidemment à la célèbre affaire Taxquet, où Taxquet 1 dit il faut la motivation des jurys, on modifie notre loi, et puis en grande chambre on dit bah non, il ne faut plus motiver, c'est trop tard, on a modifié la loi. Donc là il y a quand même une forte intervention, un impact très très fort de l'office du juge sur l'adoption du droit sur le politique de manière plus générale. Voilà, évidemment, il y a les cours constitutionnels, là je me situe au niveau belge, je ne vais pas non plus revenir trop là-dessus, vous en avez parlé. Et puis il y a le juge judiciaire. Donc là, forcément, je me situe toujours ici au niveau belge. On ne peut pas nier que la Cour de cassation a un impact qui, malgré son discours très formaliste et très, très succinct, est un impact très important sur le droit qui se base notamment par le biais d'interprétation. Alors ça, c'est quelque chose qui n'est pas très nouveau. On commence doucement à accepter, je crois, de plus en plus, que l'interprète participe à la création du sens de la norme. Et donc forcément, il n'y a plus un monopole des autorités, du législateur sur la création du droit, mais il y a une intervention forte du juge. Alors est-ce qu'il faut aller aussi loin que des théories comme la théorie structurante du droit de Friedrich Müller, qui est de dire la norme elle n'est pas dans le texte écrit, le code civil, mais dans la norme interprétée par le juge ou par son interprète. Là, il y a un déplacement de la normativité du texte écrit d'origine vers le texte produit, c'est-à-dire la décision. Je crois que ça va beaucoup trop loin, mais on peut en tout cas accepter que le juge, en tout cas, se pose souvent comme un co-créateur du sens de la norme. Alors, d'autres indices, peut-être, en effet, de ce pouvoir du juge. On a déjà parlé un peu de la multiplication de ces notions vagues, l'intérêt de l'enfant. Maintenant, c'est au juge de déterminer ce que ça veut dire. Est-ce que c'est légitime pas? En tout cas, on lui demande de plus en plus d'interpréter des notions qui sont posés en termes très larges, mais ce n'est pas tout à fait nouveau, il y avait déjà des choses comme ça dans le code civil. Il y a évidemment le développement des principes généraux du droit. Alors ça c'est des normes un peu atypiques dont l'évolution, l'application se modifie un peu selon les cas de figure et qui viennent un petit peu perturber la hiérarchie classique des normes. Et donc je crois que ça c'est certainement un outil normatif qui mis entre les mains des juges constitue, j'avais dit à l'époque, une arme de destruction massive. Colonna, ça veut dire une arme de construction massive. On pourrait dire une arme de reconstruction massive de la norme, mais certainement des normes non écrites, hein, non adoptées par le législateur, qui donnent pas mal de pouvoir au juge. Dernier élément, qui est peut-être moins connu, c'est l'idée de lacune législative. Où là, il y a une assez grande évolution en droit belge dans les dernières années. Quelque chose qui ressemblait un tout petit peu inimaginable pour Montesquieu, mais qui aujourd'hui est reconnu par la Cour constitutionnelle belge et la Cour de cassation, qui veut dire quand la Cour constitutionnelle constate une discrimination dans une norme, il appartient au juge, il a même l'obligation en fait de compléter et de remédier cette inconstitutionnalité, à tout le moins si ça peut être fait de façon relativement simple. Donc si par exemple on dit eh bien voilà, tel droit était reconnu à telle catégorie de personnes, telle autre catégorie qui était pourtant très comparable n'a pas reçu tel droit, eh bien il y a eu une discrimination, là on peut dire bah, le juge n'a qu'à ajouter finalement et complète dans la loi ce qui manque en disant ce droit est aussi reconnu à telle catégorie de personnes. Donc là c'est quand même quelque chose qui n'est pas dans un système que le droit belge, quand même très imprégné de tradition de droit continental, c'est pas rien. On reconnaît au juge le pouvoir de compléter la norme et de la coécrire. Donc on n'est plus que dans la co-interprétation, dans l'interprétation simplement la participation à la création du sens, mais on est dans une véritable complétude de la norme par le juge. Alors toutefois, heureusement, il y a quand même des balises. La Cour de cassation dit toutefois que la lacune, le juge ne peut la combler que à condition que ce ne soit pas une nouvelle règle qui doit faire l'objet d'une révélation des intérêts sociaux. Et donc, ou bien l'instauration d'un nouveau système juridique un peu complexe. Et dans ces cas-là, c'est pas à lui de faire le travail, c'est au législateur de faire le travail. Et donc là, ici, on retrouve un peu ce que vous disiez, le refus du policy making. Là, le juge dit non, ici, là, c'est pas mon boulot. Si c'est juste ajouter une ligne qui vient mettre un terme à la discrimination, ça, on doit le faire. Mais s'il faut réévaluer vraiment les intérêts en jeu, ça, c'est une balance qui doit se faire au niveau du législateur ou éventuellement l'exécutif. Alors, une nuance à cette nuance, le juge fait des balances, il fait des balances d'intérêts, mais dans le cas précis. On revient sur la question de la singularisation du cas, j'y reviendrai encore par la suite, ça me paraît une notion importante. L'idée du juge, enfin son rôle, pas juge constitutionnel évidemment, mais le juge judiciaire en tout cas, est de régler un cas, et donc dans ce cas, il peut en effet faire des balances d'intérêts, mais sans nécessairement que cette solution ait vocation à être réitérable. Parfois elle l'est, pour des raisons de sécurité juridique, mais ce qu'on lui demande d'abord, c'est de régler le cas et d'éviter le déni de justice. Alors, une petite parenthèse, je pense à ce courant allemand, qui est le courant de la jurisprudence des intérêts, un courant doctrinal assez ancien, qui disait, en cas de lacune dans la loi, ou si on a un doute sur la norme à appliquer, le juge qui devrait faire, c'est d'essayer de trouver une norme analogue, et identifier la façon dont le législateur a résolu le conflit d'intérêts qui s'y trouve, hein, comment il a fait la balance d'intérêts dans cette loi, et essayer d'appliquer par analogie ce même type de balance d'intérêts pour respecter le plus possible la volonté imaginée, présumée du législateur dans ce cas précis. Alors, voilà quelques indices en effet de cette augmentation du pouvoir du juge. Et maintenant peut-être quelques nuances, des nuances tant peut-être sur le constat que sur la représentation précisément qu'on a de cette évolution. Hein, je pense à ce suffixe ION qui fait penser à une augmentation en déplacement. Oui. Il y a peut-être en effet certaines choses, et là je vous lisais récemment, vous écriviez, l'idée de changement est parfois survalorisée dans les analyses des sciences sociales. Je crois, c'est assez parlant, je pense qu'en effet il y a certainement des évolutions dont on doit rendre compte, mais je pense que si on examine l'histoire du droit de manière plus large et qu'on accepte de remonter un peu à Montesquieu, on peut relativiser un peu un certain nombre de choses, de constats. Je pense que l'idée d'un juge tout-puissant et qui est associée un peu à la crainte du gouvernement des juges, je crois qu'elle doit se mesurer à l'aune de ce qui, dans la tradition, en tout cas continentale, est encore fort associé à l'image de Montesquieu, qui est de dire le juge à la bouche de la loi. Alors à partir du moment où le juge a la bouche de la loi, en effet, on est très très vite dans le gouvernement des juges, parce qu'on dépasse très très vite ce rôle-là. Moi, je pense, maintenant, je crois que c'est relativement acquis, mais peut-être que vous ne serez pas tous d'accord, mais que cette figure-là n'est pas vraiment tenable. Alors, pourquoi elle n'est pas tenable? Il faudrait beaucoup plus de temps pour pouvoir développer cette idée. Mais je crois que le problème de Montesquieu est d'avoir combiné une logique légitime et une logique qui me paraît fallacieuse. La logique légitime, c'est de dire, en effet, il faut une séparation des pouvoirs avec un pouvoir légitime, le pouvoir législateur qui a le monopole d'adoption des lois. Et la logique fallacieuse est celle de penser que, et là on est faut se remettre dans l'époque qui suit la révolution scientifique et l'influence de Descartes, de Leibniz, c'est le mythe d'une prévisibilité absolue qui pourrait être garantie par le législateur. En d'autres termes, le législateur pourrait prévoir tous les cas de figure. Alors en effet, si le législateur peut prévoir tous les cas de figure, ce qui me paraît faux, et qu'en effet il est le seul légitime pour adopter les lois, on peut comprendre pourquoi le juge ne devrait être que la bouche de la loi. Ça paraît malheureusement tout à fait impossible. Il y a toujours des cas qui ne sont pas prévus, pas prévisibles. La pratique en fait état tous les jours. Et donc, dans cette mesure-là, je pense que le législateur a le monopole de la loi, mais il n'a pas le monopole de la création du droit. Et donc, je pense que le juge, là, a, me semble-t-il, une légitimité qu'il faut pouvoir cadrer, sur laquelle il faut pouvoir réfléchir, dans son rôle aussi de co-créateur du droit. Et j'en viens à une deuxième idée, toujours en partant de Montesquieu. C'est qu'il parle quand même d'une séparation de pouvoirs, de trois pouvoirs. Alors, Je me demandais, du coup, quand on parlait de judiciarisation de politique, qu'est-ce qu'on entend par politique ? Et je serais ravi d'avoir votre définition sur ce que ça veut dire politique, parce que j'ai un peu cherché, j'ai eu du mal à tomber sur une définition univoque. Et selon qu'on ait une définition très large, ça, si on dit que la politique, c'est lié à l'organisation du pouvoir dans, du pouvoir dans l'État, bah, les juges, étant un des trois pouvoirs, ça me paraît évident qu'ils ne sont pas hors politique. C'est de l'évidence. Si on réduit le politique à peut-être certains choix de société, là, on peut évidemment, on peut un peu plus discuter, mais donc, je crois qu'il faudrait s'entendre, en tout cas, sur ce qu'on entend par politique quand on questionne la légitimité du juge à intervenir à cet égard. Alors, je sais que je suis censé très bref, donc je vais avancer très rapidement. Est-ce que c'est le juge qui s'invite dans la politique ou l'inverse ? Ben, dans la Cour constitutionnelle, je rappelle que c'est la moitié des juges, en fait, sont des anciens parlementaires. Donc on peut se demander si là, c'est pas peut-être le politique qui s'invite dans la justice, partiellement. Je fais ça pratiquement sous forme de clin d'œil. Est-ce que c'est le juge qui utilise le droit des fins politiques ? Ou est-ce qu'il est parfois souvent instrumentalisé par des groupes de pression, par des lobbies, par des acteurs économiques, parfois pour des fins très très légitimes ? Et c'est toute la notion de strategic litigation qui est en effet quelque chose qui se développe très fort. Et qu'est-ce que le juge fait par rapport à ça ? Bien, dans quel jeu il joue ? On se demande parfois, en effet, on demande aux avocats, vous voulez vraiment avoir la réponse et pourquoi ? Est-ce que c'est vraiment pour ce cas précis ? Ou bien il y a un agenda caché, des négociations cachées qui nous échappent ? Alors c'est pas tout à fait vrai. Il y a parfois, dans certains cas, je pense qu'il y a une instrumentalisation partielle de cours constitutionnels ou de la Cour de justice de l'Union européenne par les juges nationaux qui posent des questions préjudicielles pour avoir une réponse qui peut leur servir sans nécessairement être toujours très honnête sur les raisons pour lesquelles ils veulent cette réponse. Mais ça, c'est tout à fait, me semble-t-il, exceptionnel. Et donc je crois que globalement, c'est pas nécessairement le juge, mais je reviendrai encore sur cette idée un peu plus tard, qui essaie d'instrumentaliser le droit des fins politiques. En fait, j'aimais bien l'idée de la notion de Pierre Maure qui parle d'une théorie micropolitique du droit. Et cette idée de micropolitique, c'est, pour lui, fait référence à ce qu'il appelle une dimension liberté inhérente à tout acte de juridiction. Et ça, je crois qu'en effet, si on accepte cette liberté inhérente à tout acte de juridiction, le juge joue probablement un rôle politique, mais qui est le plus souvent un rôle micropolitique, qui est en effet lié à l'instance qui lui est soumise. Alors très rapidement sur les causes. Sur les causes de cette augmentation du pouvoir des juges, je crois qu'une des premières causes, c'est malgré tout souvent le choix du législateur, qui est de donner plus de compétences aux juges en leur demandant d'interpréter telle et telle notion. On parlait de notion d'assignation, j'aimais bien l'idée d'assignation. Je pense qu'en effet, les juges souvent héritent un peu de la patate chaude, et donc, contrairement à une idée préconçue, en tout cas mon expérience comme magistrat par rapport à d'autres collègues, c'est généralement c'est malvenu. On a juste un peu plus de travail, c'est un peu plus compliqué. On serait ravis d'avoir quelques règles bien simples à appliquer le jour, ça nous ferait la vie beaucoup plus simple. Et là, on rentre dans des notions qui ne sont pas du tout de ma compétence, qui sont des notions de psychologie du juge. Le juge, globalement, est rarement un être assoiffé de pouvoir. C'est généralement des personnes plutôt discrètes, plutôt conservatrices, qui aiment bien se reposer sur des solutions préexistantes, sur les précédents, sur ce que la Cour de cassation a décidé. Ils aiment bien aussi pouvoir se reposer sur ce que les experts ont dit. Alors, ce sera encore un autre débat, le rôle de l'expert et le rôle politique de l'expert. Et il y a des théories comme la théorie de la path dependence qui montre que même que le juge a tendance à s'inscrire dans un sentier existant. Et donc, voilà, je pense qu'il faut, il y a des exceptions évidemment. Je pense que certainement, au plus on monte dans des juridictions élevées, au plus on trouvera peut-être des juges ambitieux qui essaient d'avoir de plus en plus de pouvoir par leur jurisprudence. Mais je crois très sincèrement que ça reste très exceptionnel au niveau pratique. Et alors, en effet, les juges ne choisissent pas toujours ce qu'on leur demande. Et il y a aussi un surinvestissement de la justice par les châteurs, mais aussi évidemment par les particuliers. On en a touché un mot. Un exemple pour bien le montrer, c'est un collègue qui me disait qu'on avait, il avait été saisi pour qu'il décide du choix du prénom d'un enfant par les parents. Voilà, on peut se demander si à un moment on ne dépasse pas un petit peu ce que le juge est en mesure d'offrir. Et on voit ce contraste, ce paradoxe entre en effet des très grandes attentes envers la justice, qui paraît un peu encore un garant du droit, l'état de droit, et en même temps, il y a beaucoup de déceptions, une réaction très critique, des grèves qui s'opèrent suite à une décision de justice, et donc il y a beaucoup d'attentes, en effet beaucoup de déceptions, c'est probablement assez inévitable. Bah, pourquoi ? Parce que le juge, finalement, ce sont des êtres humains qui n'ont pas nécessairement beaucoup de moyens et qu'ils font souvent un petit peu avec les moyens du bord. Alors pour terminer, quelques perspectives, suggestions. Je pense qu'on gagnerait à former nos juristes plus à la pensée par cas, à la capacité d'appréhender des cas particuliers pour qu'ils comprennent bien en effet ce qui est un de leurs objectifs principaux. Qu'on forme aussi les étudiants en droit à la notion de la subjectivité des juges. Ça paraît une évidence pour des juristes de common law. Ils ont, en Irlande, ils ont un cours entier sur la subjectivité du juge. Je crois que c'est un élément inévitable. À partir du moment où le juge participe à la création du droit, bien, il faut qu'on puisse savoir qu'il n'est pas un robot. Et conséquence de ça, ben, probablement une attente d'une plus grande motivation, une plus grande transparence dans les décisions de justice et d'une plus grande argumentation. Et pourquoi pas ouvrir la porte aux opinions dissidentes. En résumé, mais je reviens ici au sous-titre de ma thèse, je pense que si le juge, si le droit ne peut plus offrir la certitude qu'on lui assignait au XVIIIe siècle, eh bien, il doit en tout cas essayer de garantir ou de respecter le plus la confiance des justiciables. Voilà très rapidement quelques éléments de réflexion pour ouvrir le débat. En réaction. Merci.
Oui, pour laisser là vraiment, parce que j'ai trop parlé, occupé l'espace. Je trouve que le travail du discutant en fait un travail plutôt complémentaire par rapport à des choses que j'ai évoquées. Simplement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on pourrait revenir, mais peut-être la question, l'interpellation très forte que je retiens, c'est la définition du politique. Mais je crois que ce qui caractérise la judiciarisation du politique, entre guillemets, ce phénomène qu'on appelle judiciarisation du politique, c'est que on sort de la conception des trois pouvoirs de Montesquieu. Et c'est on passe de la conception des trois pouvoirs de Montesquieu à ce que un des papes de la judiciarisation du politique, Alex Stone Sweet, qui est très favorable à cette conception-là, parle et dit ce qui s'instaure, c'est une gouvernance triadique dans laquelle la justice est partie prenante. Elle n'est plus le tiers par rapport aux deux autres pouvoirs. D'ailleurs, pouvoir, vous savez combien ça fait l'objet aussi de débats, d'interprétations, et combien le terme pouvoir a été enlevé de la Constitution française pour la remplacer par autorité. Donc, d'ailleurs, c'est donc déjà depuis un moment, on dirait que la conception des trois pouvoirs de Montesquieu elle fait l'objet d'interprétations, d'appropriations. Mais là, surtout, je pense que, enfin, je parle sous votre contrôle, de contrôle du juriste, mais la conception judiciarisation du politique, avec un des auteurs de référence, c'est de dire la justice est partie prenante et doit être partie prenante d'une gouvernance des sociétés. Donc elle n'est plus dans la doctrine que j'évoquais américaine tout à l'heure sur la justice doit devenir une agence gouvernementale explicitement rejette la théorie des trois pouvoirs de Montesquieu. Donc on est là dans une conception où on considère que la justice doit devenir effectivement, et c'est bien qu'elle devienne un acteur du politique. Et je crois que les premiers travaux d'Alex Stone Sweet, et je vais arrêter, c'est sur le Conseil constitutionnel français. Et il considère très très bien que, lui considère que le Conseil constitutionnel français intervient de plus en plus sur des questions politiques et que c'est très très positif.